Chapitre 7. Madame Guizot, née Pauline Lemelan. Certains esprits, en arrivant dans ce monde, et presque dès la première jeunesse, y apportent une faculté d'observation sagace, pénétrante, en garde contre l'enthousiasme, tournée directement au vrai, et sensible avant tout au ridicule, au travers, à la sottise. Quand la plupart des esprits élevés débutent par la passion, tantôt par une sorte d'illusion confiante, gracieuse et pastorale, tantôt par une misanthropie plus superbe et plus rebelle. Quant aux uns, le monde s'ouvre riant et enchanté comme à Paul et à Virginie, aux autres plus altiers, plus sévères et imposants, comme à Émile et à Werther. Pour les natures tout aussi mûres et prudentes dont nous voulons parler, l'apprentissage est plus de plein pied, moins hasardeux. Le monde, dès l'abord, ne se découvre ni si riant, ni si solennel, ni si contraire. Il vaut à la fois moins et mieux que cela. La plupart des hommes, après la jeunesse passée, reviennent à un sens exact des choses. Ceux qui ont commencé par l'enthousiasme confiant et innocent ont appris, à force de mécomptes, à connaître le mal, et souvent, en cet âge de l'expérience chagrine, ils deviennent enclins à lui faire une bien grande part. Quand M. de La Rochefoucauld ne fut plus amoureux ni frondeur, il se surfit sans doute un peu la malice humaine contre laquelle l'excitait encore sa goutte et ses mauvais yeux. Ceux qui l'ont pris d'abord de très haut avec les choses et qui ont été d'âpres stoïciens et des rêveurs sombres avant 25 ans, se rabattent, au contraire, en continuant de vivre et deviennent plus indulgents, plus indifférents du moins. L'auteur de Werther, s'il a jamais, un moment, ressemblé à son héros, serait une belle preuve de cet apaisement graduel dont on pourrait citer d'autres exemples moins contestables. Mais les esprits essentiellement critiques et moralistes n'ont le plus souvent besoin ni de grands mécomptes ni de désabusements directs pour arriver à leur plein exercice et à leur entier développement. Ils sont moralistes en un clin d'œil, par instinct, par faculté décidée, non par lassitude ni par retour. Boileau n'eut pas besoin de traverser de vives passions et des torrents bien amers pour tremper et appliquer ensuite autour de lui son verre judicieux et incisif. Malgré le peu qu'on sait de la vie de la Bruyère, je ne crois pas qu'il ait eu besoin davantage de grandes épreuves personnelles pour lire, comme il l'a fait dans les cœurs. Cette faculté-là, cette vue se déclare dès la jeunesse en ceux qui en sont doués. Vauvenargues nous apparaît de bonne heure un sage. Dans cette famille illustre et sérieuse des moralistes, qui, de La Rochefoucauld et de La Bruyère, se continue par Vauvenargues et par Duclos, Madame Guizot est l'auteur le dernier venu, et non, à ce titre, apprécié encore. Le moraliste, à proprement parler, a une faculté et un goût d'observer les choses et les caractères, de les prendre par n'importe quel bout selon qu'ils se présentent, et de les pénétrer, de les approfondir. Pour lui, pas de théorie générale, de système ni de méthode. La curiosité pratique le dirige. Il en est, pour ainsi dire, à la botanique d'avant Jussieu, d'avant Linné, à la botanique de Jean-Jacques. Ainsi, toute rencontre de société, toute personne devient pour lui matière à remarque, à distinction, tout lui est point de vue qu'il relève. Son amusement, sa création, c'est de regarder autour de lui, au hasard, et de noter le vrai sous forme concise et piquante. Un individu quelconque, un fâcheux, un insignifiant, passe, cause. On l'observe, il est saisi. On lit un livre, dès la préface on en tire la connaissance de l'auteur, on entre dans sa pensée ou on la contredit. À la 20e page, que de réflexions le livre a déjà fait naître. L'esprit a presque fait son volume à propos de celui-là. La critique littéraire n'est jamais, pour l'esprit moraliste, qu'un point de départ et qu'une occasion. On assiste à la représentation d'une pièce de théâtre. Que de contradictions aussi ou de développements on y apporte. On ne se dit pas seulement « cela est bon, cela est mauvais, je me suis amusé ou ennuyé », on refait, on converse en soi-même. On revoit en action les caractères, non pas au point de vue de la scène, mais selon le détail de la réalité. Tartuffe suggère Onuphre. Le moraliste va ainsi, avec intérêt, mais sans hâte, au fur et à mesure, sachant et annotant quantité de choses sur quantité de points. Quant au lien général et aux lois métaphysiques, il ne s'y aventure pas. Il est plus de tact que de doctrine, particulièrement occupé de l'homme civilisé, de l'accident social, et il s'en tient dans ses énoncés à quelques rapprochements, pour lui manifestes, sûr, après tout, que les choses justes ne se peuvent jamais contrarier entre elles. La Bruyère me semble le modèle excellent du moraliste ainsi conçu. De nos jours, je ne me figure pas un La Bruyère. Nous avons, dit-on, la liberté de la presse. Mais un livre comme celui de La Bruyère trouverait-il grâce devant nos mœurs? Le pauvre auteur serait honni, j'imagine, toutes les fois qu'il sortirait de la maxime et qu'il en viendrait aux originaux en particulier. Les gentilshommes de Versailles entendaient mieux la raillerie que plusieurs de nos superbes modernes. Une autre raison, plus fondamentale entre autres, qui rend le La Bruyère difficile de nos jours, c'est qu'on ne sait plus bien ce que sont certains défauts auxquels le moraliste jette tout d'abord un coup d'œil pénétrant et que sa sagacité évente, pour ainsi dire. Un mot, par exemple, qu'on ne dit plus guère jamais et sur lequel pourtant vivaient autrefois les moralistes, les satiriques et les comiques, est celui de sot. C'est qu'on n'est plus très sensible à ce défaut-là. Et la sottise, un peu de sottise, si elle se joint à quelque talent, devient plutôt un instrument de succès. Un peu de sottise, à côté de quelque talent, c'est comme une petite enseigne qu'on porte avec soi et sur laquelle est écrit « Regardez ma qualité ». Or, nous vivons dans un temps où le public aime autant être averti d'avance et officieusement sur les qualités de quelqu'un que d'avoir à les découvrir de lui-même. Mais, au moment où nous avons à parler d'un moraliste excellent, ne désespérons pas trop de l'avenir d'un genre si précieux et qui, jusqu'à ces derniers temps, n'avait jamais chômé en France. Madame Guizot l'a dit, en je ne sais plus quel endroit, « Quand il se produit dans un ordre de choses un inconvénient qui se renouvelle et dure, toujours il survient, et bientôt, des gens d'esprit pour y remédier. » Madame Guizot a été plus connue et classée jusqu'ici comme auteur de remarquables traités sur l'éducation que comme moraliste à proprement parler. Les deux volumes recueillis sous le titre de « Conseils de morale » la montrent pourtant sous ce jour, mais pas aussi à l'origine, pas aussi nativement, si je puis dire, qu'une étude attentive de son talent nous l'a apprise à connaître. Ses brillants débuts de moraliste se rattachent surtout à une partie de sa vie qui confine au XVIIIe siècle et qu'on a moins relevé que ses derniers travaux. Mademoiselle Pauline de Meulan, née en 1773 à Paris, fut élevée au sein des idées et des habitudes du monde distingué d'alors. Son père, M. de Meulan, receveur général de la Généralité de Paris, jouissait d'une grande fortune à laquelle il faisait honneur avec générosité et bon goût. Sa mère, demoiselle de Saint-Chamand, était de qualité et d'une ancienne famille noble du Périgord qui eut même des représentants aux croisades. La société ordinaire qui fréquentait la maison de M. de Meulan ne différait pas de celle de M. Necker, de M. Turgot. C'étaient messieurs de Ruyère, de Condorcet, Champfort, de Vennes, Suard, etc. M. de Meulan avait pris pour secrétaire à gros appointements Collet, dont Mlle de Meulan, dans le Publiciste, jugea plus tard les mémoires et à qui elle reconnaissait, à travers la gaieté, beaucoup d'honneur et d'élévation d'âme. Fort aimée de sa mère, fort sérieuse, intelligente, mais sans vivacité, décidée, assez maladive, la jeune Pauline passa ses premières années dans ce monde dont elle recevait lentement une profonde empreinte, plus tard si apparente. C'était comme un fond ingénieux, régulier et vrai, qui se peignait à loisir en elle et qu'elle devait toujours retrouver. Rien, d'ailleurs, dans cette enfance et dans cette première jeunesse, de cet enthousiasme sensible dont Mlle Necker, de 7 ans son aînée, donnait déjà d'éloquents témoignages. « Je ne me rappelle qu'imparfaitement Werther que j'ai lu dans ma jeunesse », écrit-elle après quelques années. Et il devait en être ainsi de bien des lectures qui ont le plus de prise sur les jeunes âmes et durant lesquelles la sienne ne réagissait pas. Aux approches de la Révolution, le mouvement commença de lui venir. Elle mettait de l'intérêt aux choses, au triomphe des opinions qui, dans ce premier développement de 87 et de 89, étaient les siennes et celles du monde qui l'entourait. Mais les divisions ne tardèrent pas de se produire et les secousses croissantes déjouèrent presque aussitôt ce premier entrain de son âme. L'impression générale que lui laissa la Révolution fut celle d'un affreux spectacle qui blessait toutes ses affections et ses habitudes, quoique plutôt dans le sens de ses opinions. Peut-être il tint à cela qu'elle n'ait pas eu plus de jeunesse. Ces deux idées contradictoires en présence lui posaient une sorte d'énigme oppressante et douloureuse. Sa raison approuvait et se révoltait à la fois dans une même cause. Ainsi s'aiguisait en cette passe étroite un esprit que nous allons voir sortir de là, ferme, mordant, incisif, très sensible aux désaccords, allant droit au réel et le détachant nettement en vives découpures. C'est aussi dans la même épreuve que cette âme sérieuse se trempait à la vertu. La mort de son père dès 90, la ruine de sa famille, le séjour forcé à Passy et les réflexions sans trêve durant l'hiver dur de 94 à 95 concentrèrent sur le malheur des siens toutes ses puissances morales et son énergie se déclara. C'est dans ce long hiver qu'un jour, en dessinant, elle conçut le soupçon, nous dit M. de Rémusat, qu'elle pourrait bien avoir de l'esprit. L'idée qu'il y aurait moyen de se servir de cet esprit un jour pour subvenir à des gènes sacrés dut mouiller à l'instant ses yeux de nobles larmes. Elle lut davantage. Elle lisait lentement. Son esprit fécond et réfléchi, dès les premières pages d'un livre, allait volontiers à ses propres pensées, suscitées en foule par celles de l'auteur. Elle savait l'anglais et s'y fortifia. Cette langue nette, sensée, énergique, lui devint familière comme la sienne propre. D'anciens amis de sa famille, messieurs Suard et Devenne, l'encouragèrent à de premiers essais avec une bienveillance suivie, attentive. Un piquant morceau, écrit en 1807, « Des amis dans le malheur », me paraît contenir quelques allusions à cette situation des années précédentes. Tous les amis de Mademoiselle de Meulan ne furent pas sans doute pour elle aussi essentiels, aussi effectifs que messieurs Devenne et Suard. Les mêmes personnes qui, plus tard, la plaignaient si charitablement d'être devenue journaliste, purent la faire quelquefois sourire ironiquement par leurs conseils empressés et vains. Beaucoup d'amis à compter, disait-elle, sans pouvoir y compter. Beaucoup d'argent à manier, sans pouvoir en garder. Beaucoup de dettes, pas de créances. Beaucoup d'affaires qui ne vous rapportent rien. Elle songeait probablement dans ses derniers mots à ses propres embarras domestiques, à cette fortune de plusieurs millions entièrement détruite qu'elle sut arranger, liquider comme on dit, sans en rien sauver que la satisfaction de ne rien devoir. Elle déploya à ce soin, durant des années, une faculté remarquable d'action et d'entente des affaires, qu'elle contint du reste en tout temps à son intérieur. Le premier essai littéraire de Mademoiselle de Meulan fut un roman en un volume intitulé « Les contradictions ou ce qui peut en arriver » et publié en l'an 7. Elle avait 26 ans environ. Ce début me semble caractéristique étant d'un auteur si jeune et femme. Le héros, au premier chapitre, s'éveille le décadi matin, heureux d'aller se marier le même jour avec l'aimable et vive Charlotte. Son domestique Pierre, espèce de Jacques le fataliste honnête et décent, l'habille en disant, suivant son usage, « Eh bien, ne l'avais-je pas toujours dit à monsieur ?» On va chez la fiancée qui est prête et de là à la municipalité où l'on attend. Mais l'officier municipal ne vient pas. Sa femme est accouchée de la veille. Il faut bien qu'il ait son décadi pour s'amuser avec ses amis et fêter la naissance de son enfant. « Ce sera pour demain, » se dit chacun. Et l'on s'en revient un peu désappointé. Le rival, qui est de la noce en qualité de cousin de Charlotte, sourit. L'optimiste Pierre répond à son maître, tout irrité, par son mot d'habitude. « Qui sait ?» Le lendemain, il pleut. On arrive trop tard à la municipalité et l'officier n'y est déjà plus. Le surlendemain, il faut que le fiancé parte en toute hâte pour assister une vieille tante qui se meurt. Bref, de décadie en primidi, de primidi en duodi, de contretemps en contretemps, le mariage avec Charlotte, qui est coquette, ne peut manquer de se défaire, le héros d'ailleurs étant lui-même assez volage et très irrésolu. La situation, qui semble d'abord piquante, se prolonge beaucoup trop et devient froide. L'enjouement qui persiste et revient perpétuellement sur lui-même a quelque chose d'obscur et de concerté. Mais pour avoir eu l'idée de faire un sujet de roman de ce Guignon, en grande partie imputable au calendrier républicain et à l'imbroglio des décadis, primidi, etc., pour s'être complu à ce cadre de petite ville de province où figurent des personnages assez gracieux, mais nullement héroïques, des fâcheux, des coquettes, des irrésolus, il fallait obéir à un tour d'esprit décidément original dans cet âge de jeunesse, à un sentiment prononcé des ridicules, des désaccords, des inconvénients. Ainsi, Despréaux débutait par une satire sur les embarras de Paris. On relèverait aisément, dans les contradictions, qu'on pourrait aussi bien intituler les contrariétés, un certain nombre de jolies remarques sur les gens qui font les nécessaires, sur les personnes dénigrantes. Voici un trait bien fin sur les évasions qu'on se fait à soi-même dans les cas difficiles. « Je ne sais, dit le héros du roman, si tout le monde est comme moi, mais quand je me suis longtemps occupé d'un projet qui m'intéresse beaucoup, quand la difficulté que je trouve à en tirer parti m'a contrainte à le retourner en différents sens, je me refroidis et n'attache plus aucun prix à la chose à laquelle, l'instant d'auparavant, je croyais n'en pouvoir trop mettre. » Et ailleurs, comme il arrive toujours lorsqu'on est occupé d'un projet, si peu important qu'il puisse être, j'oubliais pour un instant tous mes chagrins. Que dirait de mieux un ironique de 45 ans retiré du monde ? Ce qu'on appelle rêverie et mélancolie ne s'entrevoit nulle part. Mais il y a un touchant chapitre de l'écu de 6 francs qui rappelle tout à fait un chapitre à la Sterne, écrit par Mademoiselle de l'Espinasse. Henriette, qui finit par remplacer Charlotte dans le cœur du héros, petite personne de 24 ans, assez grasse et très fraîche, a du charme. La fragile Charlotte est drôle et non pas sans agrément. Ce héros, qui a si peu de passion, légèrement bizarre comme un original de la Bruyère, et qui rêve une nuit si plaisamment qu'il va en épouser 4, devient tendre à la fin quand il éclate en pleurs aux pieds d'Henriette. Le style est bon, court, net, clair, sans mauvaise locution. Une fois pourtant, il s'agit d'une personne qu'on n'aurait jamais connue sous un semblable rapport, une de ces manières de dire que ne toléraient Voltaire ni Courrier. M. Suard aurait dû ne point laisser passer cela. Il aurait coupé à la racine la seule espèce de défaut plus tard reprochable, à ce style si simple d'ailleurs, si vrai, et surtout fidèle à la pensée. Il n'y a pas plus trace, dans les contradictions, de sentimentalité religieuse que de toute autre disposition rêveuse ou passionnée. Le rôle de Pierre, qui se soumet en chaque chose à la Providence, a un grain de raillerie douce et fine qui ne saurait choquer personne, mais qui n'est pas fait non plus pour exalter. Le bon Pierre, avons-nous déjà dit, est une sorte de Pangloss honnête, un Jacques le fataliste qu'on peut accueillir. En prononçant, avec les ménagements convenables, ces noms, toujours un peu suspects et malsonnants, que ce nous soit une occasion d'ajouter qu'un des traits les plus marquants de l'esprit de Mademoiselle de Meulan à ses débuts, et dans les feuilletons du publiciste où nous allons la voir, ça a été de n'avoir aucune pruderie fausse, aucune délicatesse rechignée. Cette raison grave, cette conscience parfaite, ne traçait autour d'elle aucun cercle factice pour s'y enfermer. Mademoiselle de Meulan ne croyait pas déroger en jugeant longuement collé à la rencontre. Entre un feuilleton sur la princesse de Clèves et un autre sur Eugène de Hautelin, elle abordait franchement le roman de Louvet et, sans grosse indignation, sans se voiler, elle le persiflait comme prétendu tableau de mœurs, le convainquit de faux et le renvoyait aux couturières, marchandes de mode, garçons perruquiers et clercs de procureurs d'avant la Révolution, pour lesquels il avait été fait sans doute. Madame Roland, qui trouvait ce roman joli et qui, précisément, y cherchait avec un secret plaisir les mœurs d'une classe qu'elle détestait, serait devenue pourpre si elle avait lu le feuilleton de Mademoiselle de Meulan et aurait du coup été guérie. Un endroit des contradictions montre bien à quel point la pensée de Mademoiselle de Meulan allait d'elle seule et se formait en toute chose ses propres jugements. C'est lorsque Pierre, encouragé par le médiocre enthousiasme de son maître devant la colonnade du Louvre, lui dit « C'est beau, assurément, mais avec la permission de monsieur, on le trouve surtout ainsi parce qu'il faut venir de loin. Car pour moi, j'aime beaucoup mieux notre église, qui a différents dessins et des figures dans des niches, que ces colonnes toutes semblables et qui ne signifient rien. » Cette opinion sur le gothique, énoncée en l'an 7 par la bouche de Pierre, a-t-elle d'autre portée que celle d'une boutade piquante? Je n'oserais le dire. Mais je retrouve plus tard Mademoiselle de Meulan, qui arrive à des opinions également neuves et justes en matière de poésie, par suite de cette même indépendance et droiture de raison. Dans deux feuilletons de novembre 1808, sur l'usage des expressions communes en poésie, le critique, partant d'un vers de Baudouin où M. Lemercier avait mis « chevaux » au lieu de « coursiers », essaie de déterminer les conditions selon lesquelles on peut introduire en vers les expressions communes. Dans un autre feuilleton de mars 1809, sur le Christophe Colomb de ce même auteur, aujourd'hui si arrêté, si négatif, et qui était alors en veine de susciter toutes les questions nouvelles, le critique discute encore le mélange du comique et du tragique. Aucun faux scrupule, aucune tradition superstitieuse ne gêne sa raison sagace dans ce délicat examen. Ce n'est ni par le côté pittoresque, ni par les grands effets de contraste dramatique qu'elle traite les choses, et elle ne fait pas, selon moi, la part suffisante aux ressources infinies du talent et à l'imprévu de l'art. Mais à chaque mot, on sent une personne d'idées, de goût sain et ingénieux, sans préjugés, allant au fond, et rationaliste éclairé en toute matière. La chapelle d'Eton, qui parut peu après les contradictions et qui offre bien plus d'intérêt romanesque, me semble avoir bien moins de signification comme début et comme présage du genre futur de l'auteur. Mademoiselle de Meulan, s'étant mise à traduire les premières pages d'un roman anglais, Emma Courney, se laissa bientôt aller à le continuer pour son compte et à sa guise. C'était la grande vogue alors des romans anglais, avec force événements et émotions. Notre jeune écrivain essaya de faire de la sorte et y réussit. Son imagination l'aida dans cette combinaison assez naturelle et surtout attendrissante. Si on la compare à la plupart des romans d'alors, La Chapelle d'Eton paraîtra très raisonnable, très sobre d'exaltation et pure de la sensibilité régnante. L'auteur, ému mais toujours sensé, domine ses personnages, ses situations, les arrête, les prolonge ou les croise à son gré. On y sent même trop cette combinaison de têtes et l'absence de la réalité éprouvée et plus ou moins trahie. De jolies scènes domestiques, des intérieurs de famille et la continuité aisée des caractères attestent d'ailleurs cette portion de faculté dramatique, cette science de mise en scène et en dialogue dont Madame Guizot a fait preuve en bien d'autres ouvrages, dans ses contes, dans L'Écolier et jusque dans ses lettres sur l'éducation. Car, à un degré modéré et dans les limites du moraliste, elle avait l'imagination inventive. Ses pensées, loin de rester à l'état de maxime, entraient volontiers en jeu et en conversation dans son esprit. Elle savait faire vivre et agir sous quelques aspects des caractères qui n'étaient pas de simples copies. Elle ne goûtait rien tant que ce don créateur, là où il éclate dans sa merveilleuse plénitude. Molière, Shakespeare et Walter Scott étaient ses trois grandes admirations littéraires, les seules où il entra de l'affection. M. Suard avait fondé le Publiciste vers 1801. Ce que M. Dizot a si bien dit sur le salon et la société de cet académicien distingué peut s'appliquer tout à fait à la feuille qui exprimait les opinions de son monde avec modération, urbanité et d'un ton de liberté honnête. La philosophie du XVIIIe siècle, éclairée ou intimidée par la Révolution, a dit M. de Rémusat, formait l'esprit de ce recueil. La décade, qui allait tout à l'heure devenir impossible, représentait cette philosophie dans ce qui lui restait d'ardeur non découragée et de prosélytisme, dans son ensemble systématique et ses doctrines générales, et embrassait à la fois la politique, la religion, l'idéologie, la littérature. Le journal des débats relevait sur tous les points la bannière opposée. M. Suard, l'abbé Morellet et leurs amis, qui étaient des partisans du XVIIIe siècle et non de la Révolution, qui s'arrêtaient volontiers à D'Alembert sans passer à Condorcet, et demeuraient pratiquement fidèles à leurs habitudes d'esprit et à leurs goûts fins d'autrefois, ne se trouvaient pas réellement représentés par la décade et se trouvaient chaque matin soulevés et indignés autant qu'ils pouvaient l'être par les diatribes et les palinodies du journal des débats ou du Mercure. Mademoiselle de Meulan, introduite au plubiciste dès l'origine par l'amitié de M. Suard, y rencontrait donc une nuance suffisamment conforme à celle de sa pensée et un cadre commode à des essais de plus d'un genre. Elle ne tarda pas à y exceller. Durant près de 10 ans qu'elle écrivit dans cette feuille sur toutes sortes de sujets, sur la morale, la société, la littérature, les spectacles, les romans, etc., etc., on ne saurait se faire une idée, à moins de parcourir les articles mêmes, du talent varié, de la fécondité et de la justesse originale qu'elle déploya. Tantôt anonyme, le plus souvent signant de l'initiale P, quelquefois de l'initiale R, ou sous une infinité d'autres. Tantôt se répondant par un personnage emprunté et controversant avec elle-même, attaquant vivement les Geoffroy, les Fiévé, M. de la Harpe, M. de Bonal, car elle aimait la polémique et ne s'y épargnait pas, reprenant et jugeant, à l'occasion de quelque éloge académique ou de quelque réimpression, Vauvenargues, Boileau, Fénelon, Duclos, Madame de Sévigné, Madame de Lafayette, Madame des Houlières, Ninon, Madame du Châtelet. Ne manquant pas de les venger des sottes atteintes, caractérisant au passage Colin d'Arleville, Beaumarchais, Picard, Madame Cotin, Madame de Souza, dissertant de l'élégie, ou bien m'origénant doucement Madame de Genlis, sa verve de raison ne se ralentit point à tant d'emplois et ne s'égare jamais aux vaines phrases. Elle a dit quelque part de la raison chez Boileau. C'était en lui un organe délicat, prompt, irritable, blessé d'un mauvais sens comme une oreille sensible l'est d'un mauvais son, et se soulevant comme une partie offensée, sitôt que quelque chose venait à la choquer. Il y a un peu de cette vivacité, de cette vigilance de raison en Mademoiselle de Meulan, durant la période si active où nous l'allons suivre. Tout ce côté d'elle, ce côté de critique littéraire, de polémique philosophique, n'est pas connu autant qu'il le faudrait. Les deux volumes, intitulés « Conseils de morale », ont été presque en entier formés de pages extraites ça et là dans ses articles, de débuts piquants et originaux de feuilletons à propos de quelques comédies du temps oubliées. Mais on a laissé en dehors ses jugements sur les auteurs. En parcourant avec un inexprimable intérêt ces feuilles nombreuses réunies par la piété domestique, il nous est venu le désir qu'un volume encore d'extrait, un volume plus littéraire que les conseils de morale et conservant sans façon le cachet primitif, pût s'y ajouter et mettre en lumière, ou du moins sauver d'un entier oubli, tant de jugements, une fois portés avec rectitude et finesse, plus d'un trait précis qu'on devra moins bien redire en parlant des mêmes choses et plus d'un qu'on ne redira pas. Les premiers articles que Mademoiselle de Meulan donna aux publicistes furent recueillis et imprimés vers 1802 en un petit volume in 12 qui n'a pas été mis en vente. Ils trouvèrent place aussi dans les volumes de mélange que publia vers ce temps M. Suard. C'est à cette occasion que Madame de Staël, toujours empressée et en frais de bon cœur pour le mérite naissant, écrivait à cet académicien « J'ai lu avec un plaisir infini plusieurs morceaux de vos mélanges, et je n'ai pas besoin de vous dire à quelle distance je trouvais ce signé P de tous les autres. Mais dites-moi, je vous prie, si c'est Mademoiselle de Meulan qui a écrit le morceau sur Vauvenargues et celui sur le Tibet, les Anglais, etc. C'est tellement supérieur, même à beaucoup d'esprit dans une femme, que j'ai cru vous y reconnaître. » Ce dut être, d'après la réponse qu'elle reçut de M. Suard, que Madame de Staël écrivit à Mademoiselle de Meulan pour lui offrir les sentiments d'une amie et la prier de vouloir bien user d'elle comme d'un banquier qui lui demandait la préférence. Mademoiselle de Meulan n'accepta de ses avances que le parfum bienveillant qui s'en exhalait. Dans ses premiers articles d'elle, il avait été question de Madame de Staël. À propos d'une phrase de l'auteur de Malvina, de Madame Cotin, qui semblait dénier à son sexe la faculté d'écrire aucun ouvrage philosophique, le critique rappelait l'ouvrage récent de Madame de Staël sur la littérature et en prenait occasion d'y louer plus d'un passage, de relever plus d'un censeur et de toucher à son tour quelques points avec une réserve sentie. Madame de Staël, qui y recevait d'ingénieux conseils, tels que celui, par exemple, d'être plus sensible au concert qu'au bruit des louanges, n'en eut pas moins, comme nous voyons, une reconnaissance qui honore son cœur, de même que ses conseils honoraient la raison digne et fine de Mademoiselle de Meulan. Atala était apprécié dans un article par ce critique si intelligent et si mûr au début, avec une admiration tempérée de très judicieuses remarques. Et tout à côté de cet hommage rendu aux vrais talents dans les rangs de la cause religieuse, Mademoiselle de Meulan remettait à leur place le citoyen La Harpe et le citoyen Vaucelle, qui avaient pris sujet d'un article d'elle sur l'éducation des filles de Fénelon, pour se livrer l'un en plein lycée, l'autre je ne sais où, à la déclamation d'usages sur le fanatisme d'irréligion et autres lieux communs qui faisaient explosion alors. Dans une lettre à un ami qu'elle supposait méditant une brochure en faveur des philosophes, elle lui demande spirituellement « Pourquoi une brochure ? Est-ce pour prouver que Voltaire est un grand poète et Zahir une pièce touchante, ou bien que le mot de philosophe n'est pas exactement le synonyme de septembriseur ?» Et de ce ton de douairière du marais qu'elle affectionne, « La manie de votre âge, dit-elle en terminant, est de vouloir faire entendre la raison aux hommes. » L'expérience du mien enseigne qu'il est plus sûr de les y laisser revenir, que le temps les ramène d'ordinaire à la raison et à la vérité, mais que la raison et la vérité n'ont presque jamais convaincu personne. Cet esprit si expérimenté et si sûr, qui débute par où d'autres sages finissent, patience, nous le verrons se développer avec les ans d'une étonnante manière, dans le sens de la foi, de l'enthousiasme et de la tendresse. Ces âmes économes de passion et bien conservées ont des retours d'élévation et de chaleur aux saisons où les autres, d'abord dissipées, faiblissent. Les nobles et tardives passions leur sortent souvent de dessous la raison profonde, comme le pur froment des derniers greniers du sage se verse dans la disette et dans l'hiver de tous. Ainsi de celle dont nous parlons. Elle commence du ton de Duclos, elle finira en se faisant lire Bossuet. Mais n'anticipons pas. Dès les premiers feuilletons du publiciste, à la date de Floréal en 10, sous le titre de « Pensées détachées », s'en trouvent quelques-unes du cachet le plus net, du tour le mieux creusé, très fines à la fois et très étendues, très piquantes et très générales. Par exemple, « Un mot spirituel n'a de mérite pour nous que lorsqu'il nous présente une idée que nous n'avions pas conçue, et un mot de sensibilité lorsqu'il nous retrace un sentiment que nous avons éprouvé. » C'est la différence d'une nouvelle connaissance à un ancien ami. Et cet autre, la gloire est le superflu de l'honneur. Et comme toute autre espèce de superflu, celui-là s'acquiert souvent aux dépens du nécessaire. L'honneur est moins sévère que la vertu. La gloire est plus facile à contenter que l'honneur. C'est que, plus un homme nous éblouit par sa libéralité, moins nous songeons à demander s'il a payé ses dettes. Elle entre à tout moment dans le vrai par le paradoxal, dans le sensé par le piquant, par la pointe pour ainsi dire. Il y a du Sénèque dans cette première allure de son esprit, du Sénèque avec bien moins d'imagination et de couleur, mais avec bien plus de sûreté au fond et de justesse. Une sorte d'humeur y donne l'accent. Elle aime à citer le philosophe Lichtenberg. Beaucoup de ces feuilletons sont autant de petites œuvres charmantes, faisant un ensemble, se répondant l'un à l'autre par des situations qu'elle imagine, par des correspondances qu'elle se suggère. Elle sait s'y créer une forme, comme on dit, mais son esprit ne se réservait pas à de certains jours. Bien des pensées durables, recueillies dans les conseils de morale, ont été discernées et tirées du milieu de quelque article sur un fade roman, sur un plat vaudeville. Elles y naissaient tout à coup comme une fleur dans la fente d'un mur. Ces nombreuses pensées, qui ne se contrariaient jamais parce qu'elles étaient justes, et qui même se rejoignaient à une certaine profondeur dans l'esprit de Mademoiselle de Meulan, composaient pour elle une vue du monde et de la société plutôt qu'un ensemble philosophique sur l'âme et ses lois. une femme qui a soutenu avec honneur un nom illustre, Madame de Condorcet, de 15 ans environ l'aînée de Mademoiselle de Meulan, et qui se rattachait plus directement au monde de la décade, tentait vers cette époque, dans ses lettres à Cabanis sur la sympathie, une analyse, à proprement parler philosophique, sur les divers sentiments humains. Dans cet essai trop peu connu, il serait possible de noter quelques traits qui se rapprocheraient du genre de Mademoiselle de Meulan, celui-ci, par exemple, que l'esprit est comme ces instruments qui surchargent et fatiguent la main qui les porte sans en faire usage. Mais, en général, la méthode est distincte et même opposée. Une certaine passion, comme chez Helvétius, du bonheur universel, une croyance animée au vrai et un zèle de le produire, qui n'était pas encore venu à Mademoiselle de Meulan, émeuvent cette lente analyse, circulent dans ces pages abstraites, y mêlent en maint endroit la sensibilité et une sorte d'éloquence qui touche d'autant mieux qu'elle est plus contenue. Que le portrait de l'homme bienveillant et sensible a d'attrait austère, et toutes les fois qu'elle a à s'occuper de l'amour, avec quelle complaisance grave et triste elle le fait, et comme cette coupe enchantée qui termine trahit bien l'irrémédiable regret jusqu'au sein des spéculations de la sagesse. Madame de Condorcet avait reçu la passion et le flambeau du XVIIIe siècle. Mademoiselle de Meulan n'en avait que le ton, le tour, certaines habitudes de juger et de dire. La passion, à elle, devait lui venir d'ailleurs. Il serait agréable, à coup sûr, mais trop minutieux et trop long, de relever dans les articles non recueillis de Madame Guizot la quantité de droites et fines observations dont elle a marqué chaque auteur. Quoique la critique littéraire ne soit jamais le principal pour elle, elle y a laissé des traces que je regretterai de voir effacées et perdues pour toujours. Duclos n'a jamais été mieux atteint de tout point que dans un feuilleton du 6 août 1810. Boileau est placé à son vrai degré de supériorité en plusieurs feuilletons de Pluviose en 13. Elle n'était pas, comme esprit, sans quelque rapport avec lui, Boileau, sauf la prédominance, en elle, du côté de moraliste sur le côté littéraire. Elle savait à merveille la littérature anglaise et en possédait les poètes, les philosophes. On la pourrait rapprocher elle-même d'Addison et de Johnson, ces grands critiques moralistes. Je trouve en juillet et août 1809 des articles d'elle sur Colin d'Arleville. Elle distingue en son talent deux époques diverses, séparées par la Révolution, l'une marquée par des succès, l'autre par des revers. Dans cette dernière, Colin, très frappé du bouleversement des mœurs, essaya de les peindre et y échoua. Car, dit-elle, ce n'était point la société que Colin d'Arleville était destiné à peindre. Ses observations portent plutôt au dedans qu'au dehors de lui-même. Il peint ce qu'il a senti plutôt que ce qu'il a vu, etc. Le nom de Colin d'Arleville restera dans l'histoire littéraire et on courait risque, en ignorant ce jugement d'un coup d'œil si sûr, de voir et de dire moins juste à son sujet. On réimprimait et on publiait alors, vers 1806, chez Léopold Colin, une quantité de lettres du XVIIe et du commencement du XVIIIe siècle, de Mademoiselle de Montpensier, de Ninon, de Madame de Coulanges, de Mademoiselle de Launay, etc. Mademoiselle de Meulan en parle comme l'eût fait une d'entre elles, comme une de leurs contemporaines, un peu tardive. Elle dit de Madame Desoulières « Ces idylles n'ont peut-être d'autre défaut que de vouloir absolument être des idylles. Elle a mis de l'esprit partout et des fleurs où elle a pu. » Le talent de Madame Cottin ne permet guère de le juger, dit-elle, que lorsque les émotions qu'elle a fait naître sont passées, et ces émotions durent longtemps. Elle dit du style de Madame de Genlis qu'il est toujours bien et jamais mieux. Avec tant de qualités délicates et ingénieuses qui faisaient d'elle une dernière héritière de Madame de Lambert, elle avait des qualités fortes. La polémique ne l'effrayait pas. Les coups qu'elle y portait, dans sa politesse railleuse, étaient plus rudes que ceux que le poète attribue à Herminie. Que de fois elle s'est plu à rabattre, avec gaieté et malice, la cuistrerie de Geoffroy et consorts, même sur le latin qu'elle savait un peu. Mais sa plus mémorable querelle, et qui mériterait d'être reproduite, fut celle qu'elle soutint en Vendémiaire et Brumaire de l'an 14 contre M. de Bonal. L'auteur de la législation primitive avait démontré au long dans le Mercure selon la méthode des esprits violents ou paradoxaux voués aux thèses absolues, qu'il y avait nécessité d'être athée pour quiconque n'était pas chrétien et catholique. Mademoiselle de Meulan, sous le masque du disputeur, releva le raisonneur opiniâtre avec un persiflage amer et sensé. « Il faut bien se disputer, monsieur. Sans cela, la vie a beau être courte, elle serait en vérité trop longue. C'est un trésor pour moi que votre raisonnement contre le déisme. Quoi, monsieur, la vérité est nécessairement dans l'un ou l'autre extrême, et cela parce qu'une même proposition ne peut être plus ou moins vraie, etc. » Un défenseur officieux de M. de Bonal intervint pendant la querelle et, dans des lettres adressées au publiciste, essaya de pallier le paradoxe de son ami et aussi d'inculper le ton de raillerie dont avait usé le disputeur. C'est alors que celui-ci répondit au tout par une dernière et vigoureuse lettre qui s'élève à des accents éloquents. Après avoir cité ce mot d'un ancien, que toute pensée qui ne peut supporter l'épreuve de la plaisanterie est au moins suspecte, après avoir appelé Pascal sur la grâce, Boileau sur l'amour de Dieu, et M. de la Harpe lui-même plaisantant les théophilanthropes, Mademoiselle de Meulan renvoie à ses adversaires le reproche du danger qu'ils croyaient voir pour les idées religieuses en ces prises à partie trop vives. « Vous traitez dans les journaux ce que vous ne voulez plus qu'on traite à la manière des journaux. Vous y parlez de la religion. Qui ne peut en parler comme vous ? Un homme pourra être l'opprobre de la littérature et se constituer le soutien de la religion, et les amis de la religion applaudiront. Et il semblera que, trop heureuse qu'on lui trouve des défenseurs, on l'abandonne aux mains qui daignent la servir. Non, monsieur, vous réserverez à des discussions qui ne sont pas faites pour la multitude, des asiles plus inviolables, des voies plus incorruptibles, etc. Et toute la fin de la lettre. Ainsi, le combat allait bien à cette âme. Elle naissait à la passion sérieuse du vrai, à la chaleur de la raison. Il était difficile qu'on ne parlât pas beaucoup dans le monde des articles de Mademoiselle de Meulan et qu'on n'en parlât pas en divers sens. Un talent si élevé, une franchise de plume si à l'aise en chaque sujet, n'éveillait pas toujours une bienveillance très sincère. On ne pouvait refuser l'estime à l'écrivain, on se rejetait sur les convenances particulières à la personne. Ses amis qu'on a dans le malheur et qu'elle a si bien relevé, ses amis de Job, en tout temps les mêmes, la plaignaient assez haut de cette nécessité où elle était, femme et ainsi née, d'écrire des feuilletons, surtout des feuilletons de théâtre. Ennuyée de cette compassion maligne, elle y répondait admirablement le 18 décembre 1807 par une lettre d'une femme journaliste à un ami. « On censure donc mes feuilletons, mon ami. C'est en vérité leur faire bien de l'honneur. Mais la critique s'étend, dites-vous, jusque sur moi, sur le parti que j'ai pris d'écrire dans un journal et surtout d'y rendre compte des nouveautés théâtrales. Ce reproche que l'on me fait, c'est donc que je suis femme, car ce ne peut être de ce que je suis journaliste. Ceux de mes censeurs qui me connaissent savent trop bien pourquoi je le suis. Mais ne craindraient-ils pas d'avoir un reproche à se faire à eux-mêmes si, par une opinion légèrement énoncée, ils parvenaient à m'ôter, ou du moins à me rendre plus difficile, le courage dont j'ai pu avoir besoin pour sacrifier, à ce que je regardais comme un devoir, des convenances que mon éducation et mes habitudes m'avaient appris à respecter. Je les connais, vous le savez, mon ami, ces convenances qui font du rôle de journaliste le plus bizarre peut-être que pût choisir une femme si elle pouvait l'adopter par choix. Oh, je vous assure qu'il ne leur paraît pas, à vos amis, si ridicule qu'à moi, car ils ne l'ont pas vu de si près. S'ils connaissaient comme moi les graves intérêts qu'il faut ménager, les importantes considérations dont il faut s'occuper et les risibles griefs auxquels il faut répondre et les hommages bien plus risibles qu'il faut recevoir et tout ce tracas de petites passions dont la solitude d'une femme n'empêche pas que le bruit ne parvienne jusqu'à elle, s'ils voyaient au milieu de tout cela un travail sans attrait pour l'esprit et sans dédommagement pour l'amour-propre, alors je leur permettrai de dire ce qu'ils en pensent et de penser, si cela leur convenait, que je l'ai entrepris pour mon plaisir. Qu'ils ne songent pas pourtant à m'en plaindre, ce serait aussi déraisonnable que de m'en blâmer. Ce que j'ai fait, Abner, j'ai cru devoir le faire. Je le crois encore et ne vois pas de raison pour m'affliger maintenant des inconvénients que j'ai prévus d'abord sans m'en effrayer. Vous savez avec quelle joie je m'y suis soumise et dans quelle espérance. Vous m'avez peut-être vu même les envisager avec quelque fierté, en prenant une résolution dont ces inconvénients faisaient le seul mérite. Eh bien, rien n'est changé. Pourquoi mes sentiments le seraient-ils ? Etc. Voilà bien la femme saintement pénétrée des idées de devoir et de travail, telles que la société nouvelle de plus en plus la réclame, telles que Madame Guizot sera toute sa vie. Sortie des salons oisifs et polis du XVIIIe siècle, et l'exemple de la femme forte, sensée, appliquée, dans le premier rang de la classe moyenne. C'est dans le cours de cette longue collaboration au publiciste qu'eut lieu un incident souvent raconté, presque romanesque, autant du moins qu'il était possible entre personnes d'ordre d'intelligence, et qui eut des conséquences souveraines sur la destinée de Mademoiselle de Meulan. Au mois de mars 1807, sous le coup de nouvelles douleurs domestiques et dans un grand dérangement de santé, elle se vit forcée d'interrompre un moment son travail. Mais une lettre arrive qui lui offre des articles qu'on tâchera de rendre dignes d'elle durant tout le temps de l'interruption. L'auteur de la lettre non signée et des articles qu'après quelques premières difficultés, elle agréa avec reconnaissance était M. Guizot. Très jeune, obscur encore, il avait entendu parler à M. Suard de Mademoiselle de Meulan, de sa situation, et il avait écrit. On trouve en effet dans le publiciste de ces mois un certain nombre d'articles de mélange de littérature et de théâtre, signés F. Cette circonstance singulière lia bientôt ces deux esprits éminents, beaucoup plus que le rapport assez inégal des âges, et même le désaccord des opinions ne l'eussent probablement permis sans cela. M. Guizot arrivait dans le monde avec des convictions philosophiques, religieuses, très prononcées, et qui avaient quelque chose alors de la rigueur absolue de la jeunesse. Hostile au XVIIIe siècle et à son scepticisme, plus qu'à la Révolution dont il acceptait les résultats, sauf à les interpréter et à les modifier, il rencontrait une disposition assez contraire chez Mademoiselle de Meulan. Celle-ci, de plus, avait un peu pour idée, nous l'avons vu, que le temps seul ramène les hommes à la raison et à la vérité, mais que la raison et la vérité n'ont presque jamais convaincu personne. Elle disait alors que la raison, par malheur, n'était faite que pour les gens raisonnables. Le jeune homme, sorti de Nîmes et de Genève, ayant gardé des ferveurs du calvinisme, une croyance de christianisme unitérien et une sorte d'enthousiasme rationnel, se sentait le devoir et le besoin d'aller à un but, d'y pousser les autres, de convaincre, de faire preuve au dehors de cette pensée avant tout influente et active. En un mot, en se rencontrant tout d'abord, Mademoiselle de Meulan et lui, à une grande élévation d'idées, ils y arrivaient, partis d'origines intellectuelles diverses et presque contraires. Il est bien vrai que, durant ces années de long et sérieux travail, Mademoiselle de Meulan avait de plus en plus appris à se vouer au vrai, à le croire utile, à le défendre, à se passionner, au moins indirectement pour lui, en cherchant querelle à toute erreur, et aussi à régler chaque acte de sa vie sévère par l'empire, déjà religieux, de la volonté et de la raison. Ce ne fut pourtant pas le moindre triomphe de l'esprit de M. Guizot que de conquérir, d'échauffer par degrés à ses convictions, à ses espérances, et de renouveler enfin, en se l'associant, cet autre esprit déjà fait, auquel longtemps le cadre de M. Suard avait suffi, et qui semblait avoir atteint sa maturité naturelle dans une originalité piquante. Au reste, en voyant ce qu'il donna, on conclurait ce que lui-même il reçut. On ne conquiert, on occupe si intimement un esprit de la force de Mademoiselle de Meulan qu'en modifiant le sien propre et en l'assouplissant sur bien des points. Dans ces sortes d'actions réciproques, chacun même tour à tour semble avoir triomphé selon qu'on examine l'autre. Et ici, tout en gardant la direction dans l'influence, l'esprit victorieux dut subir et ressentir une part essentielle dans le détail, en diminution d'idées absolues, en connaissance précoce du monde et maniement de la société et des hommes. Le mariage n'eut lieu qu'en avril 1812. À partir de ce temps, une seconde époque, celle dans laquelle elle est plus connue, commence pour Madame Guizot. La chaleur des affections se fortifie en elle de l'ardeur des convictions, et ce double feu, moins brillant qu'échauffant, va jusqu'au bout animer et nourrir ces années de sérieux bonheur. Ce n'est plus à un moraliste de la fin du XVIIIe siècle que nous aurons affaire, c'est à un écrivain de l'ère nouvelle et laborieuse, à une mère attentive et enseignante qui sait les épreuves et qui prépare des hommes, à un philosophe vertueux occupé de faire sentir en chaque ordre l'accord du droit et du devoir, de l'examen et de la foi, de la règle et de la liberté. Sa forme sera moins vive que par le passé, moins incisivement paradoxale, moins insouciante avec légère ironie. Le sentiment contenu du réel, du vrai et du bien dominera et dirigera en tout point l'ingénieux. Avec des principes fixes et élevés, tout d'elle tendra désormais à un but pratique. Elle préluda en cette voie, dès après son mariage, par des articles, contes et dialogues, insérés dans les annales de l'éducation, recueil qu'avait fondé M. Guizot et que les événements de 1814 interrompirent. Elle publia vers ce temps « Les enfants », conte, premier ouvrage auquel elle attacha son nom, guidé par un sentiment de responsabilité morale. Elle reprit en 1821 cette suite de travaux, naturellement suspendus durant les premières années politiques de son mari. Elle les reprit par zèle du bien et par honorable nécessité domestique, et l'on eut successivement « Raoul et Victor ou l'écolier » 1821, « Les nouveaux contes » 1823, « Les lettres de famille sur l'éducation » son véritable monument 1826. Une famille ne parut qu'en 1828 après sa mort. Dans tous ses ouvrages, les lettres de famille acceptées qu'il faut considérer à part, une invention heureuse, réalisée, attachante, où l'auteur ne perce jamais, revêt un sens excellent. Celle qui, à 25 ans, avait débuté par se faire personne d'un certain âge ou même douairière du marais, entre non moins exactement, à mesure qu'elle vieillit, dans les divers personnages de ce petit monde de 10 à 14 ans, en y apportant une morale saine, la morale évangélique, éternelle, qui s'y proportionne sans s'y rapetisser. Son idée favorite, son idée chérie, est-il dit dans la préface d'une famille, c'était que la même éducation morale peut et doit s'appliquer à toutes les conditions, que sous l'empire des circonstances extérieures les plus diverses, dans la mauvaise et dans la bonne fortune, au sein d'une destinée petite ou grande, monotone ou agitée, l'homme peut atteindre, l'enfant peut être amené à un développement intérieur à peu près semblable, à la même rectitude, la même délicatesse, la même élévation dans les sentiments et dans les pensées, que l'âme humaine, enfin, porte en elle de quoi suffire à toutes les chances, à toutes les combinaisons de la condition humaine, et qu'il ne s'agit que de lui révéler le secret de ses forces et de lui en enseigner l'emploi. Comment Madame Guizot, de raison un peu ironique, d'habitude d'esprit un peu dédaigneuse qu'elle était, se trouva-t-elle conduite si vite et si directement à cette idée plénière de véritable démocratie humaine ? Comment en fit-elle l'inspiration unique et vive de tous ses ouvrages qui suivirent ? Elle était devenue mère. Son sentiment filial avait été très ardent, très pieux. Son amour maternel fut au-delà de tout, comme d'une personne mariée tard, s'attachant d'une force sans pareille à un fils qu'elle n'avait pas espéré et sur lequel, selon l'heureuse expression d'un père, elle a laissé toute son empreinte. Ses ouvrages sur l'éducation furent donc à ses yeux un acte d'amour et de devoir maternel. Dans la préface des lettres de famille, elle n'a pu se contenir sur ce cher intérêt, comme elle l'appelle. Avant d'être mère, elle travaillait, elle écrivait pour soutenir sa mère, mais c'était tout. Elle pouvait douter de l'action de la vérité et de la raison parmi le monde. Elle voyait le mal, le ridicule, la sottise, et n'espérait guère. Une fois mère, elle conçut le besoin de croire à l'avenir meilleur, à l'homme perfectible, aux vertus des générations contemporaines de son enfant. Elle comptait médiocrement sur l'homme, elle ne vit de moyen de l'améliorer que par l'enfance et se mit à l'œuvre sans plus tarder. Ceux qui ne sont ni mère ni père et qui n'ont pas la foi pure et simple du catéchisme, s'ils savent un peu le monde et la vie, arrivés à 30 ans, sont bien embarrassés souvent en face de l'enfance. Que lui dire à cet être charmant et rieur, mais ayant le germe des défauts déjà? Comment l'initier par degrés à la vie, l'éclairer sans le troubler, le laisser heureux sans le tromper? On fait alors, si l'on est sensible, comme Gray, qui, revoyant le collège d'Eton et les jeux des générations folâtres, se dit, après avoir souri d'abord à leurs ébats et se les être décrits complaisamment, « Hélas, devant la bergerie, agneau déjà marqué du feu, la troupe de plaisir s'écrie sans regarder la fin du jeu. Courant à si longue haleinée, ils n'ont pas vu la destinée se tapir au ravin profond. Oh, dites-leur la suite amère, l'eau de tout être né de mer. Hommes, dites-leur ce qu'ils sont. » Faut-il en effet vous le dire, enfants? Faut-il les dénombrer, ces mots, ces vautours de délire que chaque cœur sait engendrer? Notre enfance aussitôt passée, au seuil l'injustice glacée fait révolter un jeune sang. Refus muet, dédain suprême, puis l'aigreur qu'en marchant on sème, hélas, que peut-être on ressent. Chacun souffre, un cri lamentable dit partout l'homme malheureux, l'homme de bien pour son semblable et les égoïstes pour eux. Ce fruit aride des années, qu'à nos seules tempes fanées un œil jaloux découvrirait, ce fond de misère et de cendre, enfant, faut-il donc vous l'apprendre? En faut-il garder le secret? Le bonheur s'enfuit assez vite, le mal assez tôt est venu. S'il est vrai que nul ne l'évite, assez tôt vous l'aurez connu. Jouez, jouez, âmes écloses, croyez au sourire des choses qu'un matin d'or vient empourprer. Dans l'avenir, à tort on creuse. Quand la sagesse est douloureuse, il est plus sage d'ignorer. Mais du moment qu'on n'est plus, comme Gray, un célibataire mélancolique et sensible, du moment qu'on est père, qu'on est mère surtout, on ne s'en tient pas à ces vagues craintes, à ce quiétisme désolé. On est à la fois plus intéressé à la vigilance et plus accessible à l'espérance que cela. On sent que beaucoup de ces nuages d'épouvante, que l'imagination de loin assemble à plaisir, s'évanouissent dans le détail et à mesure qu'on aborde chaque sentier. Madame Guizot, qui, en toute chose, était d'une nature opposée aux vagues et aux tours d'esprit rêveurs, l'ennemie de ce qui n'aboutit pas et de tout fantôme, eut un souci dès qu'elle fut mère, et elle alla droit à la difficulté qui se posait. Elle avait cru l'homme incorrigible, la raison un heureux hasard et presque un don. Elle avait écrit, avec une raillerie ingénieuse, sur l'inutilité des bonnes raisons. Elle voulut alors répondre à sa prévention antérieure, se réfuter en abordant l'œuvre à la racine par le seul endroit corrigible et sensible de l'humanité, par l'enfance. Et tout le reste de sa vie d'intelligence fut voué au développement et à l'application de cette pensée salutaire. Mademoiselle de Meulan avait eu fréquemment l'occasion d'écrire quelques pages sur l'éducation et d'essayer ses idées à ce sujet. Dès 1802, nous trouvons un article d'elle à propos d'une réimpression du petit traité de Fénelon. Elle y disait « Les préceptes sur l'éducation m'ont toujours paru la chose du monde la plus incertaine. L'application des principes varie si souvent, les règles sont sujettes à tant d'exceptions qu'un traité de ce genre ne saurait être trop court parce qu'on ne peut le faire assez long ni le composer d'idées assez générales pour qu'il soit susceptible de s'adapter à toutes les conditions particulières. Sous forme de lettre d'une belle-mère à son gendre, Thermidor en 13, elle avait parlé du plus ou moins de convenance de l'éducation publique pour les femmes et s'était prononcée contre avec un sens parfait, mais avec beaucoup de gaieté aussi, ou plutôt de piquant, et de son ton le plus dégagé d'alors. Dès la première des lettres de famille, que le ton est autre! Lorsque Madame d'Attilly ouvre son cœur qui se fond, dit-elle, de tendresse à regarder ses enfants. Le mordant se fait jour encore par place, par point, comme quand il s'agit de l'oncle de Revet, qui, en se mettant en son whist, prétend qu'on est toujours élevé. Mais le fond est un entier sérieux, ce qui n'empêche pas la finesse de bien des traits de s'y détacher. Pour bien juger un tel livre, surtout d'utilité et d'application, il faudrait avoir autorité, expérience et s'être formé ses propres idées sur le sujet. Le moment des réformes politiques est celui des plans d'éducation, a dit une femme spirituelle et généreuse, Madame de Rémusat, qui elle-même a payé sa dette utile avec charme. Depuis Émile, en effet, les plans d'éducation n'ont pas manqué. Ils ont redoublé dans ces derniers temps, ou du moins les plaintes contre l'éducation et la situation particulièrement des femmes se sont renouvelées avec une vivacité bruyante. Du milieu de tant de déclamations vaines, où figurent pourtant ça et là quelques difficultés considérables et griefs réels, le livre de Madame Guizot, qui embrasse l'éducation tout entière, celle de l'homme comme celle de la femme, offre une sorte de transaction propre et mâle entre les idées anciennes et le progrès nouveau. Ce que j'ai appelé transaction n'était à ses yeux que la vérité même dans son ménagement humain nécessaire, mais sur sa base inébranlable. Les lettres 12 et 13, d'une grande beauté philosophique, démontrent les principes de conscience et de raison sur lesquels elles fondent le devoir et expliquent comment tout son soin est de faire apparaître et se dessiner par degrés la règle à la raison de l'enfant pour qu'il y dirige librement, de bonne heure et dans les proportions de son existence, sa jeune volonté. Faire régner de bonne heure autour de ses jeunes esprits une atmosphère morale où ils se dirigent par le goût du bien, les faire gens de bien le plus tôt possible, c'est là son but, son effort, et, à moins de préjugés très contraires, on lui accorde, en l'entendant, qu'elle a et qu'elle indique les vrais moyens de réussir. Il est certain, du moins, que, dans la plupart des cas, quand l'enfant est bien né, comme on dit, quand il ne recèle pas en lui de facultés trop excentriques ou de passions trop obstinées qui déjouent, le bon résultat doit s'obtenir d'après les soins qu'elle fait prendre. Au reste, la raison de Madame Guizot, qui a pied dans le fait même, admet pressant les cas d'insuffisance et en avertit. « Je le vois plus clairement chaque jour, » dit Madame d'Attilly. La jeunesse est de tous les âges de la vie celui que l'enfance nous révèle le moins. Une influence indépendante du caractère la domine avec un empire contre lequel on peut d'avance lui donner des forces, mais sans prévoir de quelle manière elle aura à s'en servir. Madame Guizot révèle en un endroit une assertion de Mistress Hannah Moore sur la nature déjà corrompue des enfants et elle la combat. En ce point, notez-le, Madame Guizot est fermement du siècle, de la philosophie, de l'expérience, qui examine, va jusqu'au bout et ne se rend pas. Elle ne fait intervenir aucun élément mystérieux et irrationnel dans l'éducation. C'est par là qu'il la faut distinguer assez essentiellement de Madame Necker de Saussure, cet autre auteur excellent, et avec laquelle elle s'est rencontrée d'ailleurs sur tant de détails, comme Madame Necker elle-même se plaît à le faire remarquer en maintes endroits de son second volume. Elle tient une sorte de milieu entre Jean-Jacques et Madame Necker, à la fois pratique comme Jean-Jacques ne l'est pas, et rationaliste comme Madame Necker de Saussure ne croit pas qu'il suffise de l'être. Au tome second, les lettres 49 et suivantes traitent à fond, dans une admirable mesure, toute la question si délicate, si embarrassante, de l'éducation religieuse à donner aux enfants. Si la manière de voir de Madame Guizot ne peut atteindre ni satisfaire ceux qui ont là-dessus une opinion très arrêtée, de pure foi et rangée à la tradition rigoureuse, elle a cet avantage de répondre, de s'adapter à toutes les autres opinions et situations plus ou moins mélangées, qui sont l'ordinaire de la société actuelle, et d'offrir un résultat praticable à Madame Mallard comme à Madame de Lassay. À un endroit de cette discussion, le nom et l'autorité de Turgot sont invoqués, et l'on sent comment les prédilections de l'auteur reviennent encore, et s'appuient par un bout au XVIIIe siècle, mais relevées et agrandies. Le livre de Madame Guizot restera, après l'Émile, marquant en cette voie le progrès de la raison saine, modéré et rectifié de nos temps, sur le génie hasardeux, comme en politique, la démocratie de M. de Tocqueville est un progrès sur le contrat social. Essentiel à méditer comme conseil dans toute éducation qui voudra préparer des hommes solides à notre pénible société moderne, ce livre renferme encore, en manière d'exposition, les plus belles pages morales, les plus sincères et les plus convaincues, qu'à côté de quelques pages de M. Jouffroy, les doctrines du rationalisme spiritualiste est inspirée à la philosophie de notre époque. Jusqu'à quel point, indépendamment de ses travaux personnels, Madame Guizot prenait-elle part à ceux de son mari, à tant d'honorables publications accessoires dont il accompagnait son œuvre historique fondamentale et dans lesquelles, à partir de la traduction de Gibbon, elle put être en effet son premier auxiliaire? Qu'il nous suffise de savoir qu'elle avait épousé tous ses intérêts, ses labeurs studieux comme ses convictions, et n'essayons pas de discerner ce qu'elle a aimé à confondre. Son bonheur fut grand. Sa sensibilité, qui s'accroissait avec les années, délicat privilège des mœurs sévères, le lui faisait de plus en plus chérir et, je dirais presque, regretter. Cette sensibilité, de qui elle avait dit si délibérément dans sa jeunesse, « La sensibilité épargne plus de mots qu'elle n'en donne, car elle détruit d'un coup les chagrins de l'égoïsme, de la vanité, de l'ennui, de l'oisiveté, etc. » Cette sensibilité, à qui elle dut tant de pures délices, fut-elle toujours pour elle une source inaltérable, et en avançant vers la fin, ne devint-elle pas, elle, raison si forte et si sûre, une âme douloureuse aussi? Sa santé altérée, au milieu de tant d'accords profonds et vertueux, le désaccord enfin prononcé des anges, ses vœux secrets, une fois sa fin entrevue, pour le bonheur du fils et de l'époux avec une autre qu'elle, avec une autre elle-même, il y eut là, sans doute, de quoi attendrir et passionner sa situation dernière, plus qu'elle ne l'aurait osé concevoir autrement pour les années de sa jeunesse. Son rajeunissement exquis d'impression se développait en mille sens et se portait sur toute chose. Elle n'avait guère jamais voyagé, à part quelques tournées en Languedoc et dans le Midi, où M. Guizot l'avait conduite en 1814. Elle n'avait que peu habité et peu vu la campagne. Mais elle en jouissait dans ses dernières saisons, comme quelqu'un qui, forcé de vivre aux bougies, n'aurait aimé que la verdure et les champs. Le moindre petit arbre de pastis et du bois de Boulogne lui causait une fraîcheur d'émotions vivifiante. Elle n'a pourtant jamais décrit la nature. De tout temps, elle a moins songé à décrire, à peindre ce qu'elle sentait, qu'à exprimer ce qu'elle pensait. Elle n'aimait pas l'art avant tout et voyait le fond plutôt que la forme, préférant la pensée moderne à la beauté antique. Son idée ingénieuse est trop vraie peut-être, était même que la sensibilité ne passe si bien dans les œuvres de l'art qu'en se détournant un peu de la vie. Je lis dans un morceau d'elle, 17 juillet 1810, « Notre flambeau s'allume au feu du sentiment, a dit le poète de la métromanie. Et je crois bien qu'on peut, en effet, regarder la sensibilité comme l'aliment de la poésie. Mais c'est lorsqu'elle n'est pas employée à autre chose et que, tout entière au service du poète, elle sert à éveiller son imagination, non à l'absorber. Il faut sans doute qu'un poète soit sensible, je ne sais s'il est bon qu'il soit touché. » Et elle continue, réfutant ou interprétant le vers de Boileau sur l'élégie. Cette idée qu'elle avait de l'espèce d'illusion, ou même de mensonge, inhérente à l'art, ne l'empêchait pas, vers la fin, d'être extraordinairement émue, et au-delà du degré où l'on en jouit, de certaines représentations ou lectures, et de n'en pouvoir supporter les faits. Personne de réalité, de pratique et d'épreuve, elle ne se prêtait pas volontiers à la mise en œuvre de la douleur et ne se laissait pas contenir et bercer dans l'idéale région. M. de Rémusat a cité d'elle ce pathétique aveu, 1821. L'effet des œuvres de l'art doit être tel qu'aucune idée de réalité ne s'y joigne, car dès qu'elle y pénètre, l'impression en est troublée et devient bientôt insupportable. Voilà pourquoi je ne puis plus soutenir au spectacle ou dans les romans ou dans les poèmes, sous les noms de Tancrède ou de Zahir ou d'Othello ou de Delphine, n'importe, la vue des grandes douleurs de l'âme ou de la destinée. En fait, de bonheur et de malheur, ma vie a été si pleine, si vive, que je ne puis, sans que la main me tremble, toucher à quelqu'une de ses profondeurs. La réalité perce pour moi toutes les voiles dont l'art peut s'envelopper. Mon imagination, une fois ébranlée, y arrive du premier bond. Il n'y a depuis longtemps que la musique qui est produite sur moi dans la niaise, l'effet attaché en général aux œuvres de l'art. Je n'avais pu supporter le final et de Roméo et Juliette. Celui de l'Agnès et seul m'a fait pleurer sans me déchirer le cœur. Est-ce par l'effet d'un choix sympathique et de quelques prédilections qu'elle se donna, vers la fin, à traiter ce sujet d'Héloïse et d'Abélard, où la passion traverse et pénètre l'austérité, où la bête savante, qui a des soupirs de Sappho, les exprime souvent en des traits de Sénèque? Cet essai, auquel s'attachait sa plume sérieuse et si bien mené jusqu'au milieu, a été interrompu par la mort. Du moins, si la sensibilité de Madame Guizot se subtilisait, s'en dolorissait pour ainsi dire de plus en plus, sa religion, en s'étendant, n'eut jamais de ces inquiétudes qui, trop souvent, l'accompagnent au sein des âmes tendres ou graves. Née catholique, atteinte de bonheur par l'indifférence qu'on respirait dans l'atmosphère du siècle, revenue, après des doutes qui ne furent jamais hostiles ni systématiques, à un déisme chrétien très fervent, à une véritable piété, elle s'y reposa, elle s'y apaisa. Les abîmes de la grâce, du salut, ne la troublèrent point en s'ouvrant au bord de sa voie. Elle avait confiance. La prière, comme un entretien avec l'être tout-puissant et bon, la fortifiait, la consolait. Un jour, peu après son retour de Plombières, où elle avait en vain cherché quelque soulagement, comme la conversation près d'elle s'était engagée et roulée depuis quelque temps sur la question de savoir si l'individualité persiste après la mort ou si l'âme s'absorbe dans le grand être, elle sortit de son abattement déjà extrême et, d'une voix par degrés raffermie, résumant les diverses opinions, elle conclut avec vivacité et certitude pour la persistance de l'âme individuelle au sein de Dieu. Le 1er août 1827, au terme de sa lente maladie, à 10h du matin, elle pria son mari de lui faire quelques bonnes lectures. Il lui lut une lettre de Fénelon pour une personne malade, et, l'ayant fini, il passa à un sermon de Bossuet sur l'immortalité de l'âme. Pendant qu'il lisait, elle expira. On l'ensevelit, comme elle l'avait désiré, selon le rite de l'Église réformée à laquelle appartient son mari, et dont les cérémonies funèbres ne contrarient pas cette croyance simple qu'elle avait. Personne de vérité jusqu'au bout, elle ne voulut mêler, même aux devoirs qui suivent la mort, rien de factice et de convenu, rien que de conforme à l'intime pensée. Elle avait un goût vif pour la conversation. Elle l'aimait, non pour y briller, mais par mouvement et exercice d'intelligence. On l'y pouvait trouver un peu rude d'abord. Sa raison inquisitive, comme elle dit quelque part, cherchait le fond des sujets. Mais l'intérêt y gagnait, les idées naissaient en abondance, et sans y viser, elle exerçait grande action autour d'elle. Que dire encore, quand on n'a pas eu l'honneur de la connaître personnellement, de cette femme d'intelligence, de sagacité, de mérite profond et de vertu, qui, entre les femmes du temps, n'a eu que Madame de Staël supérieure à elle, supérieure non par la pensée, mais seulement par quelques dons? Le sentiment qu'elle inspire est tel que les termes d'estime et de respect peuvent seuls le rendre, et que c'est presque un manquement envers elle, toujours occupée d'être et si peu de paraître, que de venir prononcer à son sujet les mots d'avenir et de gloire. 15 mai 1836.